Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est plutôt Henriette Walter que vous allez retrouver pour cette série qu'elle anime avec toute sa compétence de linguiste, puisqu'elle est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Cette série d'émissions consacrée aux langues de France est établie en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et je précise que dans une première émission, Henriette Walter a appris à distinguer la langue d'un dialecte d'un patois, et dans la deuxième, a précisé les grandes divisions géolinguistiques des langues régionales françaises. Alors, cette série comporte 20 émissions en tout. Dans les 18 qui ne sont pas généralistes, eh bien, chaque langue de France a le droit à des détails sur ses origines, son histoire, sa géographie, sa pratique, ses caractéristiques et bien sûr quelques exemples. Alors, dans cette émission, c'est aujourd'hui le flamand qui est une langue germanique, occidentale mais germanique, bien sûr. Bonjour Henriette.
Bonjour. Oui, alors on sait bien que les invasions germaniques ont été très importantes, surtout à partir du 5e siècle, et qu'elles ont laissé des traces incroyables dans la langue française elle-même, ce qui fait qu'on peut dire que la langue française, pour son lexique, est la plus germanique des langues romanes, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de mots venus du germanique. En plus, ces invasions ont laissé des traces dans des langues, en particulier dans les langues régionales, sur le terrain, avec le flamand à l'extrême nord, le lorrain germanique, francique lorrain, qui sont un peu plus au sud et à l'est, et l'alsacien.
Alors aujourd'hui, on ne parle que du flamand.
Du flamand, qui est également une langue germanique de l'ouest.
Est-ce que ça comporte aussi le flamand de...
Bien sûr.
De Belgique,
bien sûr, de Belgique. Ils l'appellent flamand en Belgique et on l'appelle néerlandais aux Pays-Bas. Mais évidemment,
c'est la même langue.
Mais différente parce que le flamand de France n'a pas connu l'évolution ultérieure qui a eu lieu pour les autres variétés, puisque cette région a été annexée à la France au XVIIIe siècle. Et donc, il y a un maintien d'une langue un petit peu plus archaïque, disons, en France.
À quels endroits particulièrement parle-t-on ce flamand en France?
Alors, en France, c'est l'extrême nord de la France, véritablement. C'est un tout petit coin qui est autour de Lille, nous dirons, de quelque chose de ce genre-là. Ces tribus germaniques sont des tribus que l'on retrace en Europe pendant tout le Moyen-Âge. Mais en général, elles ont tellement remué qu'on ne sait jamais où elles sont. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de tribus et elles se sont dispersées, mais on a pu quand même voir une différence dans les langues qui se sont parlées, au nord et au sud. Dans le nord, c'est le bas-allemand qui s'est manifesté et c'est à cette variété que remonte le flamand de France. Il était parlé à l'origine par des populations germaniques installées dans la région très tôt, probablement dès le IIe siècle avant notre ère, avant même l'occupation romaine, et en tout cas, certainement au IVe siècle. C'est très très tôt. Et il subsiste encore en France, dans cette petite région du département du Nord, après avoir connu une expansion beaucoup plus considérable. Et ça, on le voit encore dans les toponymes.
Avec toujours eux qui toujours aident eux, beaucoup toujours, à repérer la langue.
Voilà, oui, ils nous aident à retrouver les choses les plus anciennes. Par exemple, on a pour certaines villes, on a deux noms. Et il faut faire attention quand on est dans la région de Lille, quand on voit Rijssel, R-I-J-S-E-L. Je crois que ça se prononce Rijssel, mais je ne suis pas sûre. Cambrai ou Kamerik, Arras ou Arrecht, et Gravelines ou Grevelingen.
Mais y a-t-il dans cette région des gens qui maintenant apprennent encore à l'école le flamand? Est-ce qu'on s'enseigne?
Pas vraiment à l'école, non, mais il y a des associations.
Ça se parle, voilà.
Voilà, il y a des associations qui essayent de la faire revivre, voilà. Ce qui est intéressant pour le coin de l'Ouest, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il est plus ancien, il a gardé des traces de l'ancienne langue. Donc j'ai dit qu'autrefois, l'extension était beaucoup plus vaste. Et là, on va le retrouver encore dans des noms de lieux en hem ou hen.
H-E-I-M, oui.
Voilà. H-E-M, d'ailleurs, même, ou H-E-N, en France, disons, et qui correspond au mot allemand, heim, qui veut dire donc « la maison ». Alors aujourd'hui, ce flamand a complètement déserté les côtes. On l'entend seulement à la campagne, à l'intérieur des terres, où on peut trouver quelques vagues locuteurs. Ils ne sont pas très nombreux. Le lexique est essentiellement germanique, mais il a subi pendant plusieurs siècles l'influence du latin, et plus exactement celle du français, un petit peu plus récemment bien sûr. Alors à côté de mots carrément germaniques, comme « bush » pour dire la forêt, ou « brecken » pour dire cassé, ou « deep » pour dire profond, ou « kopen » acheter, purement germanique, il y a aussi « käse » qui est le fromage,
ici du latin,
caseus, strette, qui est la rue, strata via en latin, ou encore put, puis du latin, puteus. On retrouve facilement la forme française dans des mots comme garège, tisane, casette, le journal, ou kussen, le coussin, ou encore planke, la planche. La forme écrite peut parfois voiler la réalité et prêter à confusion. On ne reconnaît l'apparentement de « fisch » avec le poisson, en tout cas avec le mot « fisch » de l'allemand, ou de l'anglais d'ailleurs, parce qu'en fait ça s'écrit « v-i-s-c-h » et non pas « f ». Donc évidemment, ça complique un petit peu le problème et on peut peut-être mieux découvrir le sens du mot ou l'appartenance à une langue germanique sous V-L-E-E-S, ça va se prononcer quelque chose comme fleece et qui correspond à flesh, la chair en anglais. On peut même avancer des étymologies parfois hasardeuses, mais il faut rester vigilant. Car on peut tomber sur des faux amis. Le verbe « bellen », téléphoner, par exemple, semblerait bien être formé sur le nom de son inventeur, Graham Bell. Ah, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Vraisemblablement, il a été forgé à partir du substantif « bell », clochette, sonnette, un peu comme le français de Belgique où « téléphoner » se dit « sonner ». Voilà le flamand du coin occidental, qui malheureusement est actuellement en danger, ce qui n'est pas le cas de la langue dont on va parler dans la prochaine émission, qui va beaucoup mieux et qui est
le francique lorrain. Merci à Henriette Walter de nous avoir éclairé sur cette langue en danger, quasiment en disparition, le flamand, en tout cas le flamand du côté de la frontière française. Merci à vous de nous avoir éclairés, comme vous le faites dans chacune des émissions de cette série. Il y en aura 20. Elle est établie en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, DGLFLF. Vous voyez, bravo. J'y arrive à le dire, bravo. Parfois sans faire de faute. Voilà. Henriette Walter a publié de nombreux ouvrages, alors nous allons en citer deux. Un très savant, La dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain, diffusé par Droz, et puis un plus accessible au large public, Aventures et mésaventures des langues de France aux éditions du Temps. Merci infiniment et à bientôt pour une autre émission.
À bientôt.
Retrouvons maintenant Clément Moutier pour découvrir la langue flamande en musique.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la Chanson, vous propose de découvrir cette langue flamande. Tout d'abord, écoutons William Schotte interpréter Jan de Mulder.
Jan de Mulder met zijn leren kulde en zijn leren roken hand. Zo de reilen, zo de lanterne, zo de rijt tot de vrienden hand. Daar is het flesje, daar is het vis, en daar is het mannekenpies. Flesje, de vis, mannekenpies, en daarheen staan voor die bedrieger.
Puis Marieke N. Barthes interprétera des Mina Baudeu, une chanson dans laquelle un petit oiseau devient le messager de deux amoureux.
Ik ben te kleine voor elkeen.
Marieke Collache et son mari, tous deux chanteurs flamands, évoquent maintenant le rôle du chant dans la préservation de la culture flamande.
Le chant flamand a été, dans notre vécu associatif en particulier, culturel, un élément essentiel d'identité, de reconquête de l'identité flamande. Ça, c'est caractéristique de ce qui s'est passé dans notre secteur, dans d'autres régions de France certainement aussi, qui ont dû ressusciter leur langue régionale. Ici, il a fallu d'abord réapprendre aux Dunkerquois en particulier, qui est quand même la grande ville de Flamands de France, qu'ils étaient flamands. Il y avait un oubli, voire une négation, une amnésie, un autisme des Dunkerquois pour tout ce qui était de l'identité flamande. Et pour reconquérir cette identité, ben, il a fallu le faire non pas en brandissant des slogans douteux et des drapeaux flamands indésirables, mais tout simplement par la chanson, par la fête, par les manifestations culturelles douces, innombrables que nous avons faites pendant 30 ans, que nous avons pu un petit peu à la fois montrer aux Dunkerquois et à nous-mêmes que nous étions profondément flamands, même si la langue flamande était quasiment disparue, tout au moins en ville. Elle perdit encore heureusement dans les villages. Et puis, je crois qu'on peut se targuer d'avoir été les principaux artisans de la reflamandisation, sur le plan culturel, pas sur le plan politique, de ce petit coin de France.
Canal Académie vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle prendra la direction de la Lorraine pour découvrir le francique lorrain. Canal Académie vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la Chanson www.lehall.com.